L'été, c'est prendre le temps pour soi, le temps pour regarder parfois ce qui n'est pas très loin de soi. Cette semaine, c'est à l'ombre des forêts que l'heure du documentaire a guidé vos rêveries. Pour finir cette semaine, nous restons au grand air, plutôt à la campagne. À l'ombre des glycines, prenons un petit verre et réécoutons une histoire particulière. On connaissait les vertus de la musique pour adoucir les mœurs. On s'était même laissé dire que les tomates rougissaient un peu plus lorsqu'elles écoutaient du Mozart. Allons un peu plus loin. En partant d'une base scientifique, la physique au niveau quantique montre l'effet de certaines vibrations sur les cellules vivantes. Joël Sternheimer a développé des appareils diffusant de la musique au-dessus des vignes et des champs de courgettes. Moins mélodieuse que du Bach, ces compositions musicales ont l'avantage de lutter contre les pathologies des plantes. Si cette technique peut alimenter la moquerie de certains scientifiques avec son petit air New Age, son meilleur argument est que ça marche. Cette nouvelle discipline fait partie de ce que l'on appelle la génodique, une discipline agromusicale qui a vu le jour dans les années 60 quand des agronomes ont voulu savoir si certains sons agissaient sur la croissance des végétaux. Certains d'entre eux ont constaté le phénomène. Une sacrée découverte qui n'en est pas vraiment une, puisque de façon empirique et depuis la nuit des temps, les paysans, mais aussi les chamans, les druides et autres sorciers, utilisaient déjà la musique et les chants incantatoires pour soigner les humains ou les animaux, fertiliser les cultures ou obtenir de meilleures récoltes. Voyage au cœur de la biodynamie, mais aussi de nos pratiques vigneronnes, des avenirs possibles pour la vigne, l'agriculture et la planète. Lydia Bianisrak et Anna Schmuck nous emmènent nous promener entre les ceps de vigne au cœur de la Bourgogne. Aujourd'hui, on cueille des raisins et on les mange aussitôt, un petit verre à la main.
Oui, dis-moi, connais-tu l'animal qui inventa le calcul intégral ? Est-ce Leibniz ou bien Newton ou bien est-ce que c'est moi qui déconne ?
Quand la musique adoucit l'esprit du vin.
Pourrais-tu, mon amour, intégrer des équations nuit et jour ?
Anna Schmuck, Lydia Bénitzrak.
Sais-tu que quand on fait des épures, tout ce qu'on attrape, c'est les courbatures ? Moi j'en ai eu quand j'étais tout gamin, en trayant des vaches pour la Saint-Valentin. Il y en avait une qui avait une bonne tête, elle était mignonne, on l'appelait Chipette.
Ça m'a paru logique, ça m'a paru séduisant, très fondamental. Bon, chacun sait bien que les sons ont un rôle très important au niveau même de la physique. Et donc, je n'ai pas été choqué par cette démonstration. Ça m'a paru plutôt séduisant, ça m'a paru une ouverture très intéressante et vraiment à creuser.
Quand tu lisais partie, tout ce qu'elle savait, c'est faire tapisserie, la pauvre.
J'ai été amené à rencontrer cette équipe de recherche, Joël Sternheimer, physicien théorique, donc en physique fondamentale, physique des particules, et Pedro Ferrandis, ingénieur en biotechnologie. Et en voyant toute cette série de présentations, j'ai eu un peu l'impression d'être en face de Panoramix dans la forêt des Carnutes, là, présentant à ses collègues druides tout ce qu'il faisait, échangeant, et t'as vu celle-là, et t'as vu ça, et t'as vu ce que je sais faire aussi, etc. À l'époque, il y avait déjà près de 50 personnes, des ingénieurs, statisticiens, biologistes, psychologues, philosophes, même un psychanalyste, des gens qui avaient exploré ça avec Sternheimer, vu tout le potentiel que ça pouvait représenter, à la fois au niveau de la technologie, bien sûr, mais également au niveau humain. Et donc, en discutant, moi j'aurais dit, mais ça serait peut-être intéressant de passer à l'application, de créer une entreprise. Et justement, Pedro Ferrandis, lui, avait très envie aussi d'avancer dans cette direction-là, de créer une entreprise pour l'appliquer de manière plus systématique. Et donc, on s'est rencontrés, on s'est compris, et puis on a monté cette entreprise ensemble.
Joël Sternheimer, vous êtes physicien, mais également musicien. Et est-ce que c'est par hasard que vous êtes arrivé à des mélodies ou... Vous pensez que votre goût pour la musique vous a orienté dans cette direction ?
Le goût pour la musique m'a plutôt aidé à reconnaître que c'était signifiant, quoi.
Donc vous êtes musicien, vous jouez de la guitare, c'est ça ?
Quand j'ai fait de la chanson, oui, j'avais une guitare. Et je me souviens d'avoir chanté Le Déserteur de Vian avec Pete Seeger. Et le 15 avril 1967, à la place des Nations Unies à New York, où il y avait une grande manif pour la paix au Vietnam, où il y avait Martin Luther King, notamment, je me souviens.
Vous savez quand même qu'il a eu une carrière de chanteur, non ? Pendant quelques années, quand même, sous le nom d'Évariste.
Pendant un petit nombre d'années.
Ah, c'est ça.
Nombre
d'années,
oui. Mmh. Ouais. Mais de 67 à au début des années 70, quand même. On trouve encore plusieurs de ses chansons sur YouTube. Ah. Les jeunes d'aujourd'hui, d'ailleurs, les redécouvrent en disant « Mais c'est génial !»
Oui, enfin, pas tous.
Il y en a.
Quel est l'animal. Donc l'animal qui inventa le calcul intégral? Bon, mais il y a prescription. C'était il y a 40 ans.
Bah, et Évariste, c'était le nom. Hein.
Son nom de chanteur.
Oh, tell me, dis-moi, do you know the beast? Connais-tu le général? Who discovered? Qui inventa? Integral calculus. Le calcul intégral. Le général Cambronne, je crois que ce qu'il a trouvé, c'est pas tout à fait ça.
Il s'agit, en fait, du constat que la nature n'est pas construite au hasard, qu'il y a, en fait, des relations de type harmonique au sens musical du terme entre les composants fondamentaux au niveau le plus fin de la matière et que ces petites briques élémentaires ont des relations harmoniques, c'est-à-dire que par l'application d'une équation de physique quantique bien connue, l'équation de De Broglie, eh bien, on peut calculer la fréquence associée à la masse de chaque particule élémentaire et les fréquences des 80 particules élémentaires qui existaient à l'époque, on en connaît maintenant une centaine, mais ça n'a pas changé les fondements, eh bien, ces fréquences sont dans des relations harmoniques au sens où on l'entend en musique, c'est-à-dire qu'elles sont dans des rapports de fractions simples. Eh bien, il se trouve que la matière, au niveau le plus fondamental, le plus fin qui existe, est dans ces rapports d'harmonie, de type musical. Alors, pourquoi ? D'où ça vient, ça veut dire sans doute qu'il y a quelque chose en dessous, mais c'est pas quelque chose puisque c'est complètement immatériel. La matière qui émerge de l'énergie du vide a une structure fondamentalement musicale.
Il est là, laissez-moi passer, soyez
gentil. Désolé, voyez, la porte est trop petite. Elle est tout à fait impassable.
Vous voulez dire impossible ?
Non, impassable. Rien n'est impossible.
Bon, quoi faire de ça ? Ben, c'était pas évident, mais c'est lorsque Dannheimer a, sous la, un peu la pression d'amis biologistes, et explorer s'il n'y avait pas des correspondances dans le vivant de ces harmonies qu'il avait repérées dans la matière considérée comme inerte, qui n'est pas tout à fait d'ailleurs parce qu'elle bouge sans arrêt, ces particules élémentaires, eh bien, s'il n'y avait pas des transpositions, si le vivant lui-même n'avait pas intégré ces choses-là. Les applications ne sont pas arrivées tout de suite, hein, il a fallu un moment avant de s'apercevoir que ça pouvait avoir des effets et déboucher sur des applications.
Ça alors, j'ai jamais vu ça.
Si je vous comprends bien, Michel Duhamel, c'est comme si les molécules chantaient finalement un air.
Alors non, les molécules ne chantent pas un air. Chaque molécule a une note. Ce qui va faire une musique, c'est le processus.
Et les notes, ce seraient les acides aminés. Chacun joue une note.
Chaque acide aminé joue sa note, absolument.
Ah, voilà. Et du coup, ça fait une mélodie,
si
on les enchaîne.
Et ils s'enchaînent, puisque c'est le processus pour fabriquer ces protéines. Et donc, il y a bien une mélodie qui est jouée à chaque fois qu'une protéine se synthétise.
Mais c'est même très poétique, en fait, comme idée.
C'est très poétique. Et alors, la note émise sur chaque acide aminé a des harmonies avec les autres acides aminés, et cette succession de notes facilite, justement, l'arrivée dans le bon ordre des acides aminés.
Tu prends ton polycopier, de... Et là. On va aller photocopier ton polycopier.
Le constat, en fait, qu'il a fait, c'est que lorsque on joue auprès d'un organisme vivant la mélodie correspondant à la structure d'une protéine, eh bien, on augmente le taux de synthèse de cette protéine. Et Steinheimer a été confronté au besoin de faire le contraire, voir comment ralentir un processus de synthèse de protéines. Et il a eu l'idée de produire la mélodie en opposition de phase, si vous voulez, c'est-à-dire retourner en la mélodie symétrique par rapport à la moyenne des notes, hein, pour faire simple. C'est-à-dire que si la mélodie directe correspondant aux notes de différents acides aminés fait la la la, la mélodie symétrique va vous faire la la la. Vous voyez, c'est le symétrique par rapport à la moyenne. Bon, et donc avec ces deux types de mélodies, on peut vraiment faire de la régulation de processus biologiques, aussi bien au niveau des métabolismes, des processus de défense contre des pathogènes, toute la diversité du fonctionnement du vivant. C'est vraiment, ces mélodies ont une capacité de régulation et donc d'harmonisation ou de facilitation de processus.
«
Alors, est-ce que vous vous rappelez justement le jour où vous avez rencontré Michel Duhamel, Pedro Ferrandis?
Je prenais des cours de guitare avec Philippe Léjot, en banlieue parisienne. Et j'étais étudiant ingénieur à Jussieu, de formation biochimiste. Joël travaillait avec Philippe depuis plusieurs années, notamment quand il avait développé l'activité des musiques des particules. Philippe avait créé un instrument, modifié une guitare pour rendre les frettes amovibles.
On peut tout à fait faire de la transposition en audible pour voir à quoi ça ressemble. La surprise, c'est le jour où il a constaté que ça avait des effets biologiques. Mais ça, c'est une autre histoire.
Et puis, je me suis rappelé les histoires où du Mozart faisait donner du meilleur lait aux vaches. Je me suis dit, si ça se trouve, la prolactine, c'est mozartien. Et puis, c'était le cas. Et puis, en plus de ça, j'en ai ressenti l'effet anti-stress sur moi-même. C'est une protéodide d'un symbiote inhibitrice d'un symbiote du soja qui s'appelle Bradyrhizobium japonicum. Voilà.
Un autre champ de travail pour le coup, c'est l'humain quand il compose, les oiseaux quand ils chantent. On retrouve des protéines dedans. On a plusieurs exemples comme ça. L'actine, qui est l'une des plus importantes protéines dans le règne, c'est une protéine de structure. Bon. Au 206e acide aminé, on retrouve le début des 4 saisons de Vivaldi, le module sur le printemps. C'est identique.
Ah bon ?
C'est identique. D'ailleurs, des exemples comme ça, on en a plusieurs. Un autre exemple, je ne sais pas si vous connaissez une chanson italienne qui s'appelle Au Sole Mio. Bon. Elle a été composée à Odessa devant un champ de tournesol. Et c'est historiquement connu. Voilà. Et à l'intérieur, on trouve une molécule de tournesol. Une ATP6 synthase qui participe du métabolisme énergétique, en fait.
C'est vraiment troublant, quand même. Enfin, je veux dire, même quand on est scientifique...
Ah bah c'est troublant, indéniablement.
Ça peut pas être le hasard. Enfin...
Ça peut pas... C'est bien ce qu'on s'est dit à ce moment-là, ça peut pas être le hasard.
Je me souviens d'avoir une fois entendu un oiseau, que dans les chants d'oiseaux, on peut repérer des bouts de mélodie et donc on peut identifier ces bouts de mélodie en voyant sur quoi ça potentiellement ça peut agir. Et je me souviens d'avoir entendu une fois un oiseau qui chantait et dans la mélodie qu'il chantait, il y avait le thème d'une fleur de lys qui s'ouvre. Et le soir il chantait un autre air en mineur et il y avait le thème de la même molécule qui se ferme. Qui ferme la fleur. Donc ça, je m'en rappelle parce que c'était quand même très frappant. Et oui, les oiseaux chantent aussi pour les fleurs, c'est pas pour rien qu'ils ont apparu ensemble dans l'évolution. Ils avaient quelque chose à se dire.
Je veux quitter la terre, je veux découvrir d'autres sphères, partir dans l'infini où brillent les fleurs de la nuit. Je veux aller sur la lune, goûter les pommes.
Au début de ce travail, il y avait peu d'organismes qui étaient séquencés complètement. Et même, c'était souvent les molécules les plus intéressantes qui étaient séquencées au début. Par exemple, je pense au fibrinogène de la lamproie, qui est plus particulièrement évolué. C'est un animal à sang rouge qui se blesse souvent, qui a besoin de coaguler souvent, et dont le fibrinogène gamma est un hard rock dans un style un peu Rolling Stone. Et c'est l'ancêtre des animaux à sang rouge.
Et dans quel cas il va servir, par exemple ?
Quand on se blesse, quand on se fait une blessure, une écorchure. Et c'est très, très frappant de sentir la sensation de réconfort que ça procure, alors qu'on écouterait ça, on n'en a pas besoin. C'est plutôt violent, quoi. Et bien là, en situation de besoin, c'est une sensation de réconfort, au contraire, pendant que la plaie se referme très vite.
La singularité de Schwarzschild, pour que
des choses qui sont habituelles, mais qu'il faut quand même avoir un petit peu d'habitude pour pouvoir bien manier. Mais c'est vrai que je me dis que tout ça devrait être enseigné dans les écoles. Et C'est d'ailleurs presque le cas, puisqu'il y a un petit passage de ce fibrinogène qu'on retrouve dans la Marseillaise.
D'anticoagulant ?
Ouais.
D'accord. Et dans le hard rock aussi, en fait.
Mais il manque quelque chose dans cet enseignement de pouvoir dire à quoi ça correspond dans la nature.
Bon, bah, on va prendre du recul, on va faire pousser des tomates en stimulant l'élongation de la tige, en stimulant la production de fleurs, en stimulant le taux de sucre. Et bah, il s'avérait qu'on faisait des mesures et ça convergeait.
Ah, et qu'est-ce que vous avez pris comme musique alors pour quelle protéine pour les tomates?
Pour les tomates, l'extensine, c'était la protéine de structure pour la croissance, une protéine de floraison, et ensuite des protéines sucrantes, ça s'appelle la tomatine en l'occurrence. Ces protéines étaient connues pour leur rôle métabolique, donc on en faisait le décodage et on l'expérimentait sur.
Alors comment vous avez fait? Vous avez fabriqué des petits haut-parleurs pour passer à côté des tomates?
À l'époque, c'était très, très simple. On était au radiocassette. On s'était fait fabriquer des petites cassettes de quelques minutes, parce que c'est quelques minutes. Donc on avait l'autoriverse existait. Donc on mettait l'autoriverse, on partait, on laissait tourner 5 minutes et on revenait.
C'est une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Voilà, en parallèle, on a développé d'autres modèles, on a fait pousser des algues bleues.
Des algues bleues?
Des algues bleues, on avait récupéré un échantillon d'algues bleues et on l'a fait pousser en stimulant la photosynthèse pour voir si elles étaient plus bleues. Voilà.
Et elles étaient plus bleues?
Elles étaient plus bleues, il y avait plus d'oxygène, plus de bulles.
Et alors, à l'époque, est-ce qu'on avait déjà entendu parler de cette histoire des tomates qui rougissaient un peu plus en écoutant du Mozart ou pas encore?
Alors sur le tomate, il y avait déjà des agriculteurs qui utilisaient des musiques. Alors c'est plus en élevage, sur la production de lait, que Mozart était déjà documenté. Et bon, il s'avère qu'en fait, la prolactine bovine, qui est la principale hormone de lactation, vous l'entendez, vous avez l'impression d'écouter du Mozart. C'est très très mozartien. Encore une fois, nous, quand on utilise la prolactine bovine pour favoriser la lactation, c'est quelques minutes par jour. Alors que dans les étables, c'est du 24 heures sur 24 en musique.
Mais ça peut être contre-productif si les vaches écoutent toute la journée, ça peut les perturber,
oui,
en fin de compte.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Mais qu'est-ce donc ici? Mais où sommes-nous donc?
Vous êtes fort loin de la rive de la connaissance, vous êtes dans l'inconnu.
Après ça, il y a eu les courgettes, donc il vous a parlé notamment du virus de la mosaïque. Il y a les salades sur lesquelles on a pu travailler, sur le brémia, qui est la forme du mildiou particulière aux salades, mais également sur quelques autres éléments de moisissure, que ce soit des champignons ou des bactéries. Il y a les endives, dont on vous a dit quelques mots aussi, sur lesquelles on a pu maîtriser l'herwinia. Il y a les haricots. Chez cette grosse productrice de Touraine, on a pu sauver une production de haricots l'été, simplement en inhibant le virus qui les avait attaqués. En termes de culture de maraîchère, c'est les principaux légumes qu'on a traités. On a donc en arboriculture travaillé sur la charca des pêchers. On a travaillé aussi sur les abricots, sur une fusariose sur des kiwis, avec des bons résultats aussi. Autre chose intéressante, oui, sur des concombres. On a travaillé sur les baisses de température, enfin pour économiser un peu de chauffage. En hiver, ça fait 3 hivers qu'on accompagne un producteur au nord de Lyon. On a baissé la température des serres de 2 degrés sans perdre de production. Bon, et sur des passoires à chaleur comme sont les serres, c'est évidemment une économie de chauffage intéressante.
Il y avait aussi le pain, les huîtres,
oui, bien
et,
sûr,
puis,
c'est vrai, oui,
et puis les fleurs aussi.
On vous a parlé de la stimulation de la fermentation du pain. Oui, bien sûr, on a montré à plusieurs reprises que on pouvait nettement l'améliorer. Les fleurs, oui, on travaille effectivement sur des camélias pour faciliter au démarrage la floraison et puis améliorer le rendement de cette production. Donc chez un grand pépiniériste du sud de la France, là, du côté du Pays Basque.
Je me souviens d'avoir une fois entendu un oiseau que dans les chants d'oiseaux, on peut repérer des bouts de mélodie et donc on peut identifier ces bouts de mélodie en voyant sur quoi ça potentiellement ça peut agir. Et je me souviens d'avoir entendu une fois un oiseau qui chantait, et dans la mélodie qu'il chantait, il y avait le thème d'une fleur de lys qui s'ouvre, Et le soir même, il chantait un autre air en mineur, et il y avait le thème de la même molécule qui ferme la fleur. Donc ça, je m'en rappelle, parce que c'était quand même très frappant. Et oui, les oiseaux chantent aussi pour les fleurs, c'est pas pour rien qu'ils ont apparu ensemble dans l'évolution. Ils avaient quelque chose à se dire.
Vous pensez que les fleurs, elles parlent aux oiseaux également ?
C'est pas ça. C'est que c'est plutôt le fait que le chant de l'oiseau avait une influence, et que l'oiseau, dans son inspiration, était influencé par l'heure de la journée, par le contexte, quoi, pour chanter un fragment de la molécule Apetala d'Ulysse et son inhibiteur le soir. À l'heure où les fleurs s'ouvrent et à l'heure où les fleurs se ferment.
Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit.
Alors évidemment, en plus, là, pour des raisons juridiques et de sécurité, on rentre dans l'application de la médecine. Mais j'imagine, pour vous-même, vous n'avez pas tous les deux composé votre petite playlist personnelle ?
Alors, on rentre, si vous dites qu'on rentre dans la médecine, on a besoin de médecins. Aujourd'hui, il y a des médecins qui commencent à s'intéresser à la chose, vraiment sérieusement. Là, notamment, on peut le citer parce qu'il a publié sur le sujet, un médecin,
ORL,
a développé une application sur les acouphènes. Donc lui, en tant que médecin, a le droit de tester quelque chose de novateur, de différent, si ça apporte un bénéfice au patient. Donc c'est ce qu'il a fait, c'est même ce qu'il a publié. D'autres études sont en train d'être faites utiliser des protéodies pour baisser la sensation de douleur, par exemple. Bon, bah ça, c'est culturellement, il faut que ça commence à rentrer, quoi. Des applications, on ne peut pas tout faire, c'est pas miraculeux. Mais il y a des choses qui peuvent être vraiment testées. Et il faut que ça soit vraiment encadré par des médecins.
Les médecins savent faire, effectivement, des cohortes, et puis...
Vous disiez médecine, thérapeutique. Non, nous, déjà, quand on écoute des protéodies pour nous, on parle de santé, on parle de bien-être. Et ça, oui, bien sûr qu'on a notre playlist. On n'a pas une playlist. On va avoir peu importe le nombre, c'est pas la question.
Si, on veut savoir le nombre.
On a 1500 à peu près aujourd'hui, mais on en utilise. Tu vois, quand on est dedans, en fait, quelque part, je pense que moi, j'en écoute quasiment pas.
Ah bon, vous vous méfiez ou ça marche
non,
pas trop?
Non,
ou...
c'est parce que il suffit d'y penser. J'ai même pas besoin d'y écouter.
Vous chantonnez dans votre tête des protéines.
Elles me viennent à l'esprit.
Oh,
vous voyez, on en arrive à.
Ah oui, vous êtes un cran au-dessus, alors du coup. Et ça suffit pour avoir une stimulation que vous reconnaissez ?
Ça suffit.
Lui, il est tombé dedans quand il était petit. C'est normal, c'est comme Obélix, je veux dire. Il n'en a plus besoin.
Non, moi, je trouvais qu'il y avait plus un côté rencontre du troisième type. Vous voyez ce film de Spielberg où finalement, le langage commun qu'ils ont avec les extraterrestres, c'est de la musique. Et ce sont des notes pour les
mots. Dans le cas de rencontre du troisième type, il y a un thème, effectivement, de quelques notes. Et ce thème se trouve dans une protéine qui s'appelle la Signal Recognition Particle, qui fixe le ribosome sur le réticulum endoplasmique. Et on est saisi par l'inspiration du compositeur, parce que le ribosome, ça peut ressembler vaguement à une soucoupe volante qui va se poser. Et qui aimait cette mélodie, c'est le thème commun entre les deux molécules qui sont impliquées dans cet atterrissage, si je puis dire, du ribosome sur le réticulum.
La musique des particules, c'est presque trop beau pour être vrai. Mais est-ce que ça marche ? C'est ce que nous allons vérifier avec ceux qui ne plaisantent pas avec les résultats. Les vignerons du Bordelais qui travaillent dans l'amour de l'art. Ici, on est où, là, du coup ? Comment
Alors
ça s'appelle ?
On est à Budos, commune de Budos, sud d'Irlande, dans l'appellation Grave, en fait.
Ah, donc là, ce haut-parleur, il est à peu près à 2 mètres de hauteur ?
2 mètres de hauteur, pour pouvoir diffuser au-dessus du feuillage, quand le feuillage est... On va dire que le feuillage va monter à 1,50 m ici, hein, une fois que la vigne est développée. Donc là, on est bien au-dessus, à 2 mètres, pour diffuser un maximum de distance.
pour là, optimiser. Il va diffuser sur combien de mètres à peu près?
Ben là, on va, là, on est à 200 mètres autour de l'appareil. Si on regarde le coin des bois là-bas, on atteint le coin du bois. Et le bois renvoie le son du fait de... Ben, c'est le phénomène du son, je ne vais pas vous apprendre votre métier.
Oui, alors s'il y a des habitations qui sont trop proches, elles peuvent entendre ce son et il n'est pas forcément mélodieux.
Il est fort. Ah, si, les protéodies sont mélodieuses.
Le château Pouyanne, alors l'exploitation fait une soixantaine d'hectares, est située dans les Graves. Voilà, on a deux tiers de rouge, un tiers de blanc. On exploite, on est deux frères. Et au début, on a commencé à titre d'essai. Là, on va dire en grandeur nature, puisqu'il y a une bonne vingtaine d'hectares qui sont couverts et protégés par la musique. Et ce qui nous intéresse surtout, ce sont les résultats. Et les résultats sont très positifs d'année en année. L'exploitation est surveillée ici et contrôlée par la Chambre d'agriculture, qui me suit sur le niveau, on va dire, viticole, environnemental. Et ils font des comptages d'une façon différente que la société Genodix, mais leurs résultats sont similaires. Tous les ans, on a une baisse de mortalité évaluée entre 20 et 50%, on va dire, en moyenne. On parle des maladies des bois d'hiver, essentiellement l'ESCA. C'est la mort du vignoble, hein. Depuis qu'on n'a plus d'autorisation de produits qui étaient homologués, on n'a plus aucun moyen chimique de lutter contre ça. Et quand on a eu écho de cette possibilité-là avec la musique, on s'est porté candidat pour essayer.
À quoi ressemble cette maladie pour les non-spécialistes?
C'est presque une crise cardiaque.
Et c'est la mort du vignoble si vous ne faites rien. On avait des chiffres de l'ordre de pas loin de 8 à 10% de mortalité dans certaines parcelles.
Annuel, hein. On est sur annuel. Des mortalités annuelles. Donc si vous prenez 8%...
En 20 ans, vous n'avez plus rien, quoi, vous vous dites. Hein.
Ah, c'est grand, hein, quand même. Hein. Ça fait combien d'hectares, là?
Là, la zone couvre une trentaine d'hectares, celle-ci, là. Voilà.
Ah, c'est joli, il y a des petits bosquets au milieu, c'est
oui,
très beau.
Oui, voilà. Cette zone est entièrement couverte par la musique. Voilà.
En saison, on a 3 appareils qui sont diffusés stratégiquement.
Donc c'est scientifiquement prouvé. Si les organismes officiels le constatent. La première année, on se dit c'est le hasard, la deuxième aussi, la troisième, il y a peut-être quelque chose, la quatrième aussi quand même. Hein, voilà.
Ah, donc au début, vous étiez un peu méfiant quand même de
on
cette histoire.
On est toujours méfiant parce que ça paraît un peu bizarre que de la musique puisse soigner les plantes.
C'est vrai, c'est un peu étrange. Et quand vous le dites à
vous... Vous êtes vous-même surprise.
J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc c'est pour ça qu'on vient vous voir,
voilà,
pour vous entendre témoigner.
Après, il faut
témoigner.
Toujours du recul. C'est pour ça qu'avec les années, plus... On attend, plus on peut dire de choses.
D'ailleurs, cette année, vous m'avez dit que vous n'avez pas fait de remplacement de pieds de vigne dans les parcelles.
Non, parce qu'il y en avait tellement peu que je ne l'ai pas fait. Voilà.
Tous les ans, y a les pieds morts sont remplacés par le viticulteur. Vous voyez là les pieds où il y a les sachets. C'est les pieds remplacés chaque année. Parce qu'il y en avait beaucoup. Là, quand il y en a beaucoup moins, le remplacement se fera tous les 2 ou 3 ans.
Voilà. On regroupe les travaux. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'y a aucun produit chimique, puisqu'il s'agit simplement de l'émission de son ou de musique, je ne sais pas comment sons, on peut l'appeler, ce sont des sons.
C'est la musique de la vigne.
Oui, mais justement, comment? Alors vous, quand vous avez entendu ces sons pour la première fois, vous avez trouvé ça comment?
Ça me réveille tous les matins. Parce que c'est réglé à 6h du matin et j'habite dans la zone viticole, alors tous les matins je l'entends. Je pense que ça doit aussi réveiller certains voisins, mais personne ne s'en est trop plein. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça ne pollue pas l'environnement, puisqu'il ne se n'est vraiment que des sons.
Et l'horaire est important, Hervé Bonnet, que ce soit 6h du matin, c'est important?
Alors c'est plutôt le matin de bonne heure, oui, on va dire entre 5h et 7h, et c'est le... La vigne se réveille le matin, comme nous. Hein. Donc, au lever du jour, la vigne est plus réceptive à tout ce qui peut être stimulation pour elle, hein. Y compris quand on utilise une certaine chimie, il vaut mieux aussi le traiter le matin plutôt qu'en journée. Et le soir, c'est pareil, la vigne va se détend en fin de journée, on va dire. Hein. On est dans les mêmes rythmes. Hein. On ne fait que...
La plante est stressée la journée par l'environnement.
On est dans un dialogue, avec la plante. Donc c'est l'évolution de l'agriculture. L'agriculteur connaît sa plante. Le viticulteur, il est capable presque de vous dire le nom de ses... Il pourrait remettre un nom à chaque pied de vigne. Hein. C'est comme les éleveurs qui connaissent leur vache.
Ah, c'est vrai? Vous donnez des petits noms aux pieds de vigne?
Pas à tous, pas à tous.
Vous préférez, vous avez des bons chouchous?
Il y en a quand même beaucoup.
Oui, c'est vrai que là, voilà. Là on en voit à perte de vue. Hein. On aurait du voilà. mal à tous les nommer, évidemment.
Voilà. Oui, mais chaque pied est un pied individuel. Et quand vous taillez un pied de vigne, il n'y a pas deux pieds de vigne taillés de la même manière. C'est vraiment un contact individuel.
C'est une personnalité.
Oui, chacun a une personnalité. Et du coup, le viticulteur connaît ses vignes. Monsieur Zosa sait parfaitement qu'ici, ça pousse moins bien que là, il y a une mouillère qui l'embête chaque fois qu'il passe le tracteur. Là, ben, il va falloir qu'il fasse attention parce que il y a la sécheresse qui l'embête.
Bientôt le Tour de France.
Il s'entraîne.
Il y a des cyclistes qui passent sur la petite route à côté.
Voilà, tout à fait. Ils viennent pour écouter la musique.
Alors donc l'horaire vous convient pas trop, mais la mélodie elle-même...
Si, c'est très bien parce que ça me réveille le matin.
Ah,
voilà.
Ça remplace le coq.
Ça remplace le coq, bien qu'il y ait quand même un coq. Et la mélodie, non, n'est pas désagréable. Hein. Ah. N'est pas désagréable à écouter.
Donc vous étiez quand même étonné au début que ça produise de tels effets.
Je voulais voir, je voulais constater. Oui. On l'a constaté et aujourd'hui je dis oui.
Et ça marche. Est-ce que vous en parlez?
Il y a un effet certain.
Ah oui. Vous en parlez à votre entourage ou ça reste encore un peu mystérieux?
Oui, alors les voisins sont intrigués, ils questionnent, ils se renseignent. D'ailleurs, il y en a qui se sont renseignés et j'en ai pas mal qui ont adhéré.
Ouais. Donc vous avez réussi à convertir des gens finalement. Alors vous étiez sceptique au départ.
Voilà, je sais très bien que ce n'est pas une méthode à 100% qui va tout éradiquer, mais si ça atténue la montée en puissance de la maladie, c'est déjà beaucoup. Et non seulement ça, mais là... ça régresse au jour d'aujourd'hui et ça c'est bien.
Mais le pays est joli, hein, vous avez remarqué, c'est pas mal. Donc là on traverse la Garonne, on arrive rive droite et on est dans ce qu'on appelle les côtes de Bordeaux.
Donc on s'éloigne de Château-Pouillan et de...
Ah oui, là on est de l'autre côté. C'est vrai que c'est en coteau, ça monte et ça descend. Oui, donc là, on vient de traverser la Dordogne et on rentre dans le pays de Saint-Émilion, dans l'aire d'appellation. Donc vous voyez que les vignes ne sont plus du tout les mêmes. Là, on est en vigne basse et étroite, alors qu'on était dans l'entre-deux-mers sur des vignes un peu plus hautes et un peu plus larges. Là, on voit aussi les vignes qui ont gelé. Donc, la dernière gelée est encore ce matin, puisque malheureusement, ce matin, il a gelé. Mais oui, regardez là, comment ça a été gelé, ça. Oh là 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 là. Ça, mais ça, c'est la semaine dernière. Gelée noire, qui est une gelée où c'est le vent qui gèle les vignes. Donc là, nous sommes arrivés au château Cormaquin.
On va rencontrer Denis, c'est ça?
Denis, voilà, c'est ça. Denis Cormaquin, l'exploitant et le propriétaire. Donc là, on est en appellation Saint-Georges-Saint-Émilion.
Je connais bien le métier.
Bonjour. Bonjour. Voilà, alors, donc je sais ce que j'expliquais, c'est que c'était pas un bon jour pour nous. C'est vraiment une catastrophe, ce gel-là. J'ai l'impression qu'on n'est pas les seuls. Enfin, on n'est pas les seuls, le seul vignoble même. Ah parce non, que non, dans la France entière, tout le monde. Puis ils ont l'air de dire que ça n'est pas terminé en plus.
Ah bon? Ah oui.
Ben, je sais pas, la météo pour nous, pour la région, a l'air de dire que déjà les gelées, la principale gelée, c'était quand même la nuit dernière. Et puis là, on a changé de lune, est en train. Voilà. Alors, évidemment, c'est pas pour rien qu'on attaque la lune rousse.
Oui.
Hein.
Ben oui.
Alors la lune rousse.
Ça influence avec le gel?
Ben, c'est-à-dire que cette fameuse lune rousse, elle est connue, on l'appelle la lune rousse parce qu'elle roussit. elle gèle, elle roussit le bout des plantes, parce que la première lune de mai, souvent, qui se passe à ce moment-là, cette lune, c'est juste au moment où la vigne commence à pousser, donc les feuilles sont encore toutes fragiles, et il y a très souvent du froid à cette période. On peut avoir du froid. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la lune rousse, parce que, et qu'on a les chevaliers de glace, les saints de glace, tout ça, tant qu'on n'a pas passé le 15 mai.
Monsieur Cormac, voilà. Bonjour.
Vous êtes tombé sur une belle matinée.
Oui, mais c'est ce que j'étais en train de leur expliquer. Alors,
la dernière, c'était en 91.
Oui.
Voilà. Enfin, la récolte est vraiment
Il
très
s'agit compromise. Maintenant, grâce à Génodix, de leur donner...
Non, mais ça va les soutenir, si vous voulez, mais oui. Ça ne va pas fabriquer de raisins. Hein, je suis désolé.
Non, ça ne va pas fabriquer, mais déjà, si la plante est plus vigoureuse...
Oui.
Ça,
il n'y a pas de problème, mais...
Il n'y a pas de problème, vous le dites. Hein. Moi, j'aimerais le croire.
Enfin, pour l'ESCA, c'est absolument évident que ça marche. Ouais. Toutes les parcelles là, qui sont autour de votre appareil, non. Quasiment plus d'ESCA. Voilà. Par contre, j'ai là où vous avez mis le nouvel appareil, le pourridier a fait beaucoup de dégâts cette année. Ah donc oui. Il va falloir que vous insistiez sur le problème.
Oui, on va affiner la chose alors. Parce que là, on l'avait pris un peu tard aussi.
On l'a pris un peu tard.
On l'a mis un peu tard. Voilà.
Vous voulez rentrer dans le coin ou dans le bureau,
Ils vont adorer le chai pour les hirondelles. Parce que quand même,
Alors, on se parle avec les hirondelles, elles chantent. Voilà. Alors, au début, il y avait un nid, puis il y a eu deux nids, puis trois nids, et là, je suis à 10 nids. Donc, elles arrivent, il y a un premier couple qui arrive très tôt, et ensuite, les autres couples se suivent les uns après les autres. Alors, vous avez vu le petit trou pour qu'elle rentre et qu'elle sorte quand on n'est pas là, bien sûr. Alors, elles font des crottes partout. Ben, si vous voulez, on lave par terre. C'est pas très grave. Alors, c'est des animaux vraiment super. Moi, j'adore les oiseaux. Voilà. Vive les hirondelles. Ça nous sert d'insecticide, de toute façon. Eh bien, évidemment, elles mangent toutes les papillons. Et elles sont là, au milieu des vignes. Hein. Elles circulent partout. Les moustiques, elles se nourrissent d'insectes. Hein. Ouais.
Vous ne voulez pas rentrer dans le bureau, là ?
Oui, parce que là, maintenant, on commence à... Vous
n'avez pas peur des chiens ?
Donc, on étend Génodix ou on attend l'année prochaine
Vous mettez celui-là, j'en veux.
Oui, ouais,
absolument. Et l'autre, vous me le mettrez l'année prochaine ou même si vous voulez le mettre cette année. Après tout, je ne suis plus à... Je trouve ça tellement bien que je suis prêt à faire cet investissement.
Historiquement, dans votre famille, quand même, vous êtes assez précurseur des grandes nouveautés du vignoble bordelais.
Mon grand-père a créé ce vignoble en 1880.
Le grand problème de l'époque, évidemment, c'était le phylloxéra qui avait tué toutes les vignes, qui avait ravagé tout le vignoble français. Hein, tout le vignoble français, en général.
Il est arrivé en 1880.
Sachant que le phylloxéra venait des pieds qui venaient des États-Unis.
C'est un insecte. Il est arrivé des États-Unis par bateau. Avec les bois qu'on amenait. Et donc, ce célèbre professeur, on lui a
Viala.
Dit... Viala. A eu l'idée de dire, mais attendez, aux États-Unis, il y a encore des vignes qui fonctionnent et qui marchent. Donc, il est parti en bateau et il a ramené les premiers pieds de vigne qu'il a greffés sur place, qu'il a fait pousser sur place et qui ont servi de racines à ses premiers pieds de vigne. Qu'il a fait en pépinière.
Et qu'on a toujours, hein. On a toujours la racine américaine. Nos pieds de vigne sont greffés, tous les pieds, obligatoirement. C'est-à-dire une racine américaine et on greffe dessus un cépage, quel qu'il soit, français ou ce qu'on veut. Mais si on ne met pas cette racine américaine, si on ne fait pas une greffe, eh bien le phylloxéra... immédiatement, se réinstalle.
Mais lui n'avait jamais testé la musique sur les vignes.
Non, il n'a pas pensé.
Et alors vous, avec les premiers tests, vous avez été convaincu des résultats ?
Écoutez, les résultats, je les ai vus quasiment la deuxième année. Une parcelle de jeunes vignes plantée sur un terrain vierge qui n'avait pas eu de vigne depuis 30 ans. J'ai eu une attaque d'ESCA formidable sur cette parcelle. Après le grand froid, après l'hiver où il a fait très froid, après l'hiver de 85, et puis ça a continué, et puis jusqu'à ce qu'on se rencontre. Et depuis que j'ai installé cet appareil, le cercle s'est agrandi et il y a une mortalité très faible. Et je ne vois plus de pieds qui meurent d'escarre dans ces parcelles-là. Ça paraît incroyable, soigner des plantes avec de la musique. Il fallait que quelqu'un y pense et mette la chose en action.
C'est pas de la musique, c'est des ondes quand même.
C'est des ondes, mais c'est quand même, il y a quand même une musique.
C'est musical quand même, c'est harmonieux quand même.
Ah, mais c'est ce que je vous disais, moi, mes petits-enfants, quand je les ai, ma petite fille qui avait 4 ans, je lui ai dit un soir.
Pas la musique, je vais la faire.
Non, mais attends, un soir je l'ai amenée, je lui ai dit bah, écoutez, ce soir on va écouter la musique de grand-père dans les vignes. Alors elle était fascinée, il voulait absolument aller voir. On y est allé, on a ouvert les portières, elle est descendue. Et là, la musique, ça se chantait, et elle s'est mise à danser. Elle s'est mise à danser au milieu de la vigne, alors elle était toute petite, et c'est, je ne sais pas, ça l'a portée, et elle dansait, elle s'est arrêtée net quand la musique s'est arrêtée. Alors, c'est très étonnant.
Écoutez. Comment est-ce qu'une plante peut réagir à la musique? C'est quand même extraordinaire. Voilà, bon, c'est tout.
Mais est-ce que, quand vous racontez ça, est-ce que les gens vous prennent pas pour quelqu'un de bizarre, un petit peu?
Peut-être, mais ça m'est complètement égal.
Hervé Bonnet était venu nous voir pour nous expliquer le fonctionnement de la boîte à musique. Je trouvais ça un peu difficile à comprendre, puisque j'avais pas fait le rapprochement entre la vibration, je pensais musique au départ, entre la vibration et la plante. Donc, après avoir regardé, m'être renseigné, j'ai décidé de faire un essai, d'autant plus que Hervé Bonnet m'avait dit que si le résultat n'était pas concluant, je pouvais rendre la machine et j'étais remboursé. Nous sommes sur l'appellation Puiseguin-Saint-Émilion et aujourd'hui les résultats sont assez concluants puisque on est à 0, quelques pourcents d'incidence. Et aujourd'hui, j'ai rencontré d'autres viticulteurs qui ont utilisé cette machine et qui sont très satisfaits. Ils en ont mis plusieurs, ouais. En particulier des voisins, hein, des viticulteurs qui sont soit dans les crus classés de Saint-Émilion, et donc au niveau des satellites en montagne, il y a un viticulteur qui a plusieurs machines et qui m'a dit qu'il était enchanté aujourd'hui puisqu'il avait réduit donc le taux d'ESCA en dessous de 0,5%.
Et vous me disiez, Hervé Bonnet, que là, vous êtes passé à une diffusion par jour.
Dans le cas de M. Dupuy, oui. On a, et ça marche très bien. On n'est qu'à 8 heures le matin, une diffusion de 8 minutes, et on a les résultats qui vont... La vigne, alors, est-ce que c'est parce que c'est en bio? Est-ce que ça n'a pas influé sur le fait que le travail en bio aide à rendre la vigne plus perceptive, plus réactive, c'est possible?
Et les produits chimiques sont pas indispensables. Hein. Autrefois, toute l'agriculture, depuis le néolithique jusqu'en 1950, on peut dire, pour le vignoble, était bio. Bon, moi j'ai eu la chance d'avoir mon père qui était déjà en bio. Aujourd'hui, l'agriculture bio en Gironde représente 3,5%. C'est encore peu. La biodynamie retrouve les données essentielles du calendrier lunaire et nous l'adaptons à la viticulture.
Quelque part, c'est intéressant parce que la théorie de Sternheimer, notre chercheur, rejoint cette théorie des ondes d'échelle et des relations entre les particules les plus fines jusqu'aux galaxies, quoi. On est vraiment dans cette dimension. On l'explique, la silice par exemple a des doses homéopathiques, mais en fait c'est jamais qu'envoyer des messages pour nous il envoie des protéodies sous forme d'ondes de forme, puisque la forme d'un cristal de silice est tétraédrique, c'est ça, et qui fait que quand elles tournent dans l'air comme ça, elles vont, ou qu'elles se posent, elles vont émettre des ondes au même titre que les ondes qu'on envoie, mais par ondes de forme. Il y a une façon de tourner l'eau, par exemple, pour redynamiser l'eau, puisque l'eau dans la canalisation depuis le château d'eau, elle arrive à votre robinet, elle est morte en fait, elle n'a plus d'énergie. Donc c'est redonner de l'énergie à l'eau par un procédé
Il y a divers procédés, hein, je crois.
C'est un dynamiseur.
Un dynamiseur, hein,
c'est un dynamiseur. Fait, nous, on a un dynamiseur en cuivre, mais ici, il peut être en bois. Hein, donc, on utilise ces préparations à base de bouse de vache, donc qui sont restées dans des cornes pendant tout l'hiver. Et on l'utilise donc pour le sol. Et ensuite, la silice, c'est pour la lumière, pour l'air. Voilà. Donc, la dynamisation a lieu pendant une heure. Donc, et toutes les minutes, on crée ce qu'on appelle le chaos, qui permet d'inverser le sens de rotation de l'eau. Alors nous, on utilise l'eau de pluie, il ne faut absolument pas de chlore pour avoir une bonne préparation.
Il y a aussi la prise en compte de l'influence de la Lune, par exemple.
Ah ben, moi, je parlais des planètes, hein. C'est pas que la Lune. Hein. La biodynamie tient compte de toutes les planètes, avec les positions des planètes entre elles, et de la saison, de la saisonnalité, de l'avenir des planètes dans la saison d'après. Et quand vous faites un traitement anti-milieu et autres, c'est pas aujourd'hui je me lève, tiens, je vais faire un traitement. Non, c'est aujourd'hui toutes les conditions énergétiques, en fait, parce que c'est que des énergies, hein, en fait, hein, sont réunies pour préparer ma préparation de dynamisation et alors selon les maladies, c'est prêt l'ortie, les décoctions de plantes, quoi, hein, pour le milieu, l'oïdium et autres, il y a des traitements, hein, c'est pas. Sauf que ce n'est pas de la chimie de synthèse, c'est de la chimie organique, naturelle, à partir des propriétés propres à chaque plante, qui ont été récoltées dans certaines conditions, à certaines époques, en fonction de... Ah oui, c'est ce qui se faisait dans des temps plus anciens.
On a perdu cette notion de calendrier lunaire dans l'agriculture en général, mais il y a une profession qui ne l'a pas perdue, ce sont les maraîchers.
Bienvenue au château Fayot, dans tous les cas.
Merci.
Ça peut être troublant, parce que c'est à l'inverse de tous les principes que nous pouvons avoir qui ont été notre mode de réflexion depuis 30 ans, mais pourquoi pas des fréquences stimuler les plantes et c'est même pas pourquoi pas, c'est, on s'aperçoit que ça a une incidence, quoi, voilà. Alors beaucoup de propriétés viticoles le disent mais ne veulent pas le dire.
Ah, oui, oui. Ils n'osent pas avouer qu'ils passent de la musique à leur vigne.
Ils ont peur de se moquer, qu'on se moque d'eux.
Oui,
on taira le nom, puis c'est pas M. Bonnet, puis moi je me permettrai pas de le faire. Mais, ou alors c'est peut-être des essais, on dit oh, c'est encore un uliberlu. Voilà. Je crois que non, il faut être pragmatique. Hein. Il faut être pragmatique, regarder, dire que c'est suffisant et nécessaire pour tous les types de problématiques, non. Mais pour certains, notamment des maladies de bois, on sait que ça marche, quoi. Et donc, ce serait idiot de ne pas mettre ces procédés simples dans la vie. L'idée, elle est simple, c'est pour que vous compreniez bien le système, hein, c'est la synthèse des protéines. Moi, je laisserai M. Bonnet en parler, mais de ce que j'ai compris et ma simple expérience, c'est toute protéine qui se pose sur l'ARN pour faire de l'ADN, donc de la matière, si on veut, émet une vibration. Une fréquence, donc. Et ils sont arrivés à identifier les fréquences de champignons qui nous embêtent ou alors de protéines qui permettent d'inhiber la présence de ce champignon. C'est ou dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire où on active les défenses immunitaires de la plante ou on diminue la capacité de ce champignon-là à se développer. Donc, ça, c'est la base. Donc, pour activer ça, c'est des fréquences, et ces fréquences sont reproduites par des notes de musique. Bon, ils ne sont pas très mélomanes quand on écoute les protéodies, mais ils respectent les fréquences, donc on ne peut pas tout avoir. Voilà, je crois que c'est ça la base. Une note de musique, ça n'a jamais fait de mal à personne, quoi, voilà. Et si ça peut nous éviter d'avoir des interventions chimiques ou humaines, moi c'est surtout chimique en l'occurrence, ben c'est pas plus mal.
Et vous n'avez pas eu peur pour votre réputation des gens qui trouvent ça un peu bizarre ou qui ricanent, qui trouvent ça étrange ?
Alors on est quand même en Gascogne, donc c'est rigolo et ça nous permet au moins d'avoir un thème où on peut avoir une joute oratoire. C'est pas une croyance, hein, c'est pas dogmatique, c'est pragmatique comme démarche. C'est satisfait ou remboursé, donc à la limite je me moque plus de ceux qui n'ont pas envie d'essayer, oui. C'est simple, on met un appareil, on expose la vigne du mois de mars, on va dire, jusqu'au vendange, même un peu après, tant qu'il y a des feuilles, quoi, que la vigne est réceptive. Et c'est deux fois un quart d'heure, trois fois un quart d'heure par jour de musique, avec des panneaux photovoltaïques, donc on ne consomme même pas d'énergie. Donc voilà, j'ai fait beaucoup courir M. Bonnet, puisqu'on a contrôlé les pieds un rang sur deux, et il trouve que je marche trop vite.
Avec M. Medville, on a mis en place un essai là, plus avancé qui concerne les maladies plus annuelles, qui sont le mildiou et l'oïdium black rot. Et on a commencé la saison dernière. Et là, c'est un appareil qui est piloté à distance depuis un smartphone. C'est l'évolution de nos appareils qui permet d'être plus réactif dans les séquences à diffuser en fonction de la pression de la maladie.
Il y a des processus où ils sont au point. Pour ce qui est toutes les maladies de bois sont au point. Pour les fermentations malolactiques. Et on est arrivé à la finalité de se dire que quand on avait une cuve qui ne fermentait pas, c'est que l'appareil était en panne. Et on appelait M. Bonnet, et c'est arrivé deux fois, où on trouvait que... Oui, donc si c'est pour faire écouter de la musique et avoir son vin qui fermente sans qu'on ait besoin de réchauffer le vin, donc, puis que c'est une méthode qui est naturelle, quoi. Faire écouter de la musique à une bouteille de vin, ça va en faire rire plus d'un, mais ça marche. Et ça nous a bluffé, par exemple. Et quand vous avez un vin qui n'a pas fait sa deuxième fermentation malolactique, donc vous lui mettez l'appareil... Le vin est à 18 degrés, trois jours après, ça fait d'abord un mois que le vin est dans cette condition-là. Vous lui mettez les écouteurs, une semaine après, la malolactique est finie, vous dites, bon, ok, il a eu de la chance, on recommence. Non, sauf quand on le fait sur 10 cuves et que 10 fois on a le même phénomène. Voilà. Là, qu'est-ce que c'est que la fermentation malolactique? C'est Jacques Testard qui l'a trouvé, qui était chercheur, qui l'a trouvé en 70. Et avant, on savait pas ce que c'était. Il faut savoir qu'on appelait ça la fermentation de printemps. C'est-à-dire qu'on mettait le raisin, puis on fermait la cuve. Empiriquement, il savait qu'il fallait fermer la cuve. Alors, moi, je l'ai pas vu faire, parce que je suis trop jeune, mais il fermait la cuve avec la vase de la Garonne pour que ça soit bien étanche. Il savait bien qu'il fallait pas qu'il y ait d'air qui rentre. Puis au printemps, ils entendaient de nouveau une deuxième... du bruit, des bulles qui... Et c'était la fermentation de printemps. Alors il y avait des vins qui, à l'époque, étaient mis en bouteille avant ou après, ça dépendait... Parce qu'on ne la maîtrisait pas, cette fermentation. Et c'est pour ça que vous avez des vins qui sont des vieux millésimes qui se gardent éternellement, parce que quand ils n'ont pas fait leur fermentation malolactique, c'est des vins qui sont beaucoup plus durs à boire, beaucoup plus tendus, et ça leur garde une jeunesse éternelle, quoi. Et le consommateur aujourd'hui ne comprendrait pas ou aurait du mal à boire des vins qui n'ont pas cette deuxième fermentation de fait. Mais c'est une fermentation qui, dans tous les cas, est naturelle. Vous exposez un vin au soleil, à une température constante, voilà. L'avantage du principe génodique ou des bactéries que l'on peut mettre, c'est qu'on les contrôle mieux. Là, c'est rigolo qu'avec de la musique, on puisse la contrôler sans avoir à dépenser d'énergie et donc à être plus respectueux de l'environnement. Donc au début, il y a la transformation des sucres en alcool, fermentation alcoolique. Et après, on sait que plus les deux fermentations sont proches l'une de l'autre, plus on garde le caractère fruité des vins. Et puis, c'est ce qui est assez sympa, c'est que ça peut être une gestion individuelle, quoi. C'est-à-dire que ça peut être une cuve par une cuve, puisque c'est tout simplement deux écouteurs aimantés qu'on met sur une cuve, quoi. Et ça s'arrête là. C'est que là, on a fait avec un appareil de vigne, ils l'ont adapté, mais c'est des géos trouve tout. Voilà.
Et vous êtes le cobaye aussi en même temps.
J'aime pas le côté de cobaye parce que ça se finit toujours mal pour lui. Disons le partenaire. Et moi, on m'a demandé pourquoi il n'y avait pas eu Dire Straits, mais quelle était la musique qui était jouée. Oui, non, on est allé fort. Hein. Ce n'est pas encore Garo Rock dans les vignes, mais ça restera un marmande pour l'instant. Voilà.
C'était une histoire particulière quand la musique adoucit l'esprit du vin. Avec Michel Duhamel, Pedro Ferrandis et Hervé Bonnet de Genodix, Joël Sternheimer, docteur en physique théorique et musicien, et les vignerons Denis Cormaquin et sa femme Christine, Gérard Dupuis, Christophe Zossa et Marc Medville.
Et d'ailleurs, souvent, les gens qui passent, ils disent « mais il y a de la musique !»
ils se retournent, ils entendent la musique. C'est surprenant, quoi. Les gens qui passent à côté d'une cuve et qui entendent, au début, ils se sont dit, avant dégustation, ils se disent, est-ce que c'est bien normal?
Coordination Christine Bernard, prise de son inspirée Jérémy Thuil, mixage Jean-Louis Deloncle, réalisation Anna Schmuck, un documentaire de Lydia Benitzrak.
Retrouvez sur le site de l'heure du documentaire des photos, des liens, des vidéos et toute une bibliographie afin de prolonger votre écoute. La semaine prochaine, l'heure du documentaire vous propose une semaine sur des portraits de réalisateurs.